Vous avez 24 minutes dans une journée.
Tout savoir en 24 minutes.
Pour s'informer et comprendre en 24 minutes, ici Mario Dumont, en compagnie de Vincent Dessureau, des studios de Cube Radio, la station d'affaires publiques de Québécois. Voici Tout savoir en 24 minutes.
Tout savoir en 24 minutes.
La santé publique et son grand patron, le docteur Luc Boileau, le directeur par intérim de la santé publique, a fait un point de presse aujourd'hui sur le dossier de la variole simienne et annonce que le Québec aura des vaccins disponibles dès demain. Il faut dire on est rendu à 25 cas de variole confirmés qui sont, faut dire, tous reliés les uns aux autres. Essayez de le confirmer, le docteur Boileau.
Des contacts physiques connus avec quelqu'un d'autre qui avait été positif ou des présences vraiment rapprochées dans le même environnement.
Exact. On sait, là, ça concerne des hommes ayant eu des relations homosexuelles dans la région de Montréal. On dit, là, il y a des personnes qui se connaissent pas nécessairement bien, mais c'est le même,
c'est la même source.
Là. Donc, on parle
mais
vraiment.
Mais là, il y a un mineur.
Ouais, on parle d'une personne mineure. Mais on comprend qu'il y a eu des relations sexuelles. Ça peut également être transmissible par gouttelette. Alors, quel est le détail de ces cas-là? On ne l'a pas, mais on sait qu'on est capable de remonter à la source de chacun d'entre eux. On parle d'une période d'incubation de 5 à 7 jours, mais qui peut se prolonger là, jusqu'à 21 jours. Donc, la question des vaccins. Un vaccin qui est disponible, Imvamune, qui va arriver au Québec. Par contre, il n'y aura pas de campagne.
On ne va pas sur Clic Santé. Là.
Non, tout à fait. Vous n'irez pas au stade olympique vous faire vacciner. Ce sera vraiment dans quelques cas bien précis.
D'ailleurs, je pense que le docteur Boileau parlait au total, on compte les vaccins en quelques centaines. C'est des petits nombres là, de vaccins.
Exactement. On n'en a pas besoin de plus, d'ailleurs, pour l'instant, selon le docteur Boileau. Je vous le fais entendre sur un peu là, à qui ça s'adresse, ces vaccins qui vont arriver demain.
Des contacts qui sont à haut risque d'un cas confirmé ou probable de la variole simienne vont pouvoir être vaccinés avec une seule dose de vaccin contre la variole, idéalement assez proche après l'exposition, donc autour idéalement à l'intérieur de 4 jours, mais on peut aller un peu plus loin. Les doses offertes sont administrées seulement à la suite d'une recommandation de la santé publique. Alors, on n'ouvre pas des centres de vaccination pour les gens. On n'est pas dans ce contexte-là. C'est un agrégat de quelques cas jusqu'à maintenant qu'on essaye de contenir.
Bon, et il rappelait que les symptômes, là, principalement des lésions cutanées au niveau de la bouche, des organes génitaux, peut avoir de la fièvre, sueur nocturne, maux de tête, douleurs articulaires et musculaires, et la contagion disparaît au moment où les lésions disparaissent. Alors, il y a une vigilance, je pense, qui est accrue aussi chez les médecins depuis quelques jours. Alors, si vous n'êtes pas contacté par la santé publique, vous n'aurez pas à avoir ce vaccin. La sécurité publique du Texas a fait le point aujourd'hui sur les opérations lors de ce terrible fusillade, ce massacre au Texas.
Parce que les questions se corsent là-bas là, sur la qualité de l'intervention policière. Hein?
Ouais, des images qui sont devenues d'ailleurs virales. On voit des parents tenter d'intervenir à l'intérieur de l'école et être bloqués par des policiers. Et ce, pendant à peu près une heure. Là. Alors, une attente absolument interminable par les parents lors des scènes difficiles à regarder et qui ont amené des questionnements sur la rapidité de l'intervention des policiers dans cette école. Alors, ce qu'on a expliqué, c'est que la majorité des coups de feu ont eu lieu dans les premières minutes de l'attaque, en spécifiant qu'il n'y avait pas eu de garde armée à l'entrée, là, ça avait circulé, tout ça. On dit que le tireur, Salvador Ramos, est entré sans obstacle, qui a eu des coups de feu, est entré se barricader dans une classe. C'est là qu'il aurait fait en 4 minutes ses victimes, que des policiers auraient tenté d'intervenir rapidement, mais ont fait face à des coups de feu. Certains ont été blessés et c'est à ce moment-là qu'on a décidé davantage d'attendre les équipes spécialisées et de procéder à l'évacuation des gens autour de cette classe-là. Et c'est ça qui aurait duré pratiquement une heure. Je pense que ce qu'on tente de convaincre, c'est que si l'intervention avait été plus rapide, on n'aurait sauvé personne parce que
ça n'aurait rien changé. Là.
Il l'a fait dans les premières minutes. Est-ce que ça va satisfaire les parents? On sait qu'ils semblaient fortement critiquer l'intervention des policiers. Faudra voir, alors que cet État et le pays en entier est en deuil. On sait que ça a relancé tout le dossier des armes à feu.
Mais le sénateur du Texas, Ted Cruz, je ne sais pas si c'est ce matin ou hier soir, Finalement, c'était rendu une histoire de porte.
Oui, il disait que c'était
la porte avait été laissée, la porte avait été laissée débarrer, mais là, c'était rendu de la faute. C'était plus, il y avait plus un problème d'armes à feu aux États-Unis, c'était le concierge qui avait laissé une porte débarrée.
Oui, et je sais qu'il y a plein de versions qui circulent, à savoir les parents devraient s'assurer de la sécurité de l'école avant d'envoyer leurs enfants et tout ça, comme si c'était toujours aux autres à surveiller. Il faut rappeler la porte d'entrée de nos écoles. Elle est ouverte, là.
Ben oui.
Un gardien, ça peut être la première personne que tu sais, le gardien.
Il n'y a pas une carte du ciel quelque part où c'est écrit quelle école va être victime d'une fusillade l'an prochain, là?
Non.
C'est quand tu dis qu'il faudrait que les parents surveillent ou s'assurent de sécurité de l'école, lui envoient leurs enfants. Oui. Ces parents-là, la semaine passée, devaient penser que leur école était bien correcte, là. C'est une petite école, là, comme toutes les autres.
Et on sait qu'il y a une grande rencontre de la NRA
Mais le gouverneur du Texas va être là, d'ailleurs.
Oui, absolument.
Il a confirmé sa présence. Donc, il vient d'avoir une fusillade dans une école, puis il va aller à un congrès pour dire qu'il faut des armes à feu, plus d'armes à feu, etc., partout dans le pays. Très bien. Est-ce que je pense qu'il va perdre un vote? Non, probablement pas, malheureusement.
Revenons au Québec avec les restes de cette tempête qui a déferlé sur l'Ontario, le Québec, samedi dernier, parce que certains sont encore là-dedans. Mario, je viens de regarder le dernier bilan d'Hydro-Québec. On est à 43 000 personnes toujours privées d'électricité. Rappelez qu'au plus fort de ces pannes, plus d'un demi-million de Québécois étaient privés de courant. Alors 43 000, faut dire surtout dans les Laurentides, l'Outaouais et la Naudière. Ensuite, 1450 pannes qui sont toujours en cours. Hydro-Québec fera le point d'ailleurs dans le courant de la soirée sur ce sujet, parce qu'on arrive, Mario, à des pannes toujours plus petites, hein, parce qu'au début, on gère les grosses pannes, et ensuite, on y va au cas par cas, de sorte que certaines de ces résidences-là pourraient retrouver le courant uniquement vendredi, samedi, plus tard pour certains.
Mais là, le fait qu'Hydro-Québec refait un point de presse, ça m'inquiéterait, moi, si j'étais... On refait le point, on l'a fait hier matin, on refait le point le lendemain, fin d'après-midi. Il me semble que c'est pour préparer les esprits à des délais plus longs. En tout cas,
on dit que la moitié des pannes en ce moment, c'est 10 clients au moins. Donc là, tu écoutes 1400 pannes, là, ça commence à faire pas mal. Sophie Brochu, la présidente et chef de la direction d'Hydro-Québec, sera de ce point de presse en fin de journée à la chute dans les Laurentides. Alors, on parle d'un sinistre d'ampleur qu'on n'avait pas vu depuis la crise du verglas en 1998. Alors, faudra prendre son mal en patience pour plusieurs.
Et on a parlé plus tôt dans l'émission, un vendeur de génératrices qui dit que les affaires sont bonnes cette semaine.
Oui, mais je pense qu'il souffre aussi de la pénurie de personnel. Et là,
t'arrives
dans un rush inattendu.
Ouais. Mais j'ai l'impression que c'est une peut-être une bonne idée d'investir dans les génératrices.
Oui.
Si on continue à avoir des événements du genre, à mon avis, il y a de plus en plus de gens qui vont vouloir avoir ça là, comme sécurité à la maison. Entre autres, toutes les personnes qui ont un puits artésien, qui pas d'électricité, mais pas d'électricité, c'est pas d'eau en même temps parce que t'as pas de pompe.
Ouais, parce que là, c'est peut-être plus d'orage l'été, plus de verglas l'hiver. Ça peut être difficile
à suivre.
Le ministre de la Santé, Christian Dubé, aujourd'hui, qui a annoncé retirer finalement cet article qui a déclenché une controverse sur son projet de loi sur l'aide médicale à mourir. Projet qu'on veut mettre de l'avant rapidement parce que le temps file. Et des détails, là, on sait, on fait des détails, pas un détail, là, mais concernant les personnes souffrant d'un handicap neuromoteur grave, là, comme les quadriplégiques, par exemple, a surpris l'opposition qui disait on est arrivé avec ça de façon brouillon, un lapin sorti du chapeau. Et Christian Dubé a décidé d'y aller avec le consensus, d'éviter des délais, finalement retirer cet article-là.
Il nous a quand même indiqué dans son point de presse ce matin la source, pourquoi il a mis cela, parce que moi, ça m'intriguait. C'est le Collège des médecins qui demandait ça au nom d'une... d'une divergence d'interprétation entre la loi fédérale et la loi québécoise dans le cas de ces personnes-là, des personnes avec des éléments...
Handicap de neuromoteur grave.
Neuromoteur, exactement. Mais, je veux dire, je comprends le but du Collège des médecins, que ce serait plus simple pour nous s'il y avait concordance entre les deux. Mais d'un point de vue québécois, c'est un changement énorme, là. T'as un handicap neuromoteur, t'as pas de condition de maladie dégénérative ou qui s'en va vers la mort. Je dis pas que c'est un débat qu'on pourra pas avoir un jour, mais d'essayer d'inclure ça dans un projet de loi, déjà que c'est un projet de loi de dernière minute. Qui devient acceptable. La seule raison pourquoi c'est acceptable de faire un projet de loi, de voter un projet de loi en deux semaines, parce que la Chambre finit le 10 juin, là, donc un projet de loi qui va être voté en deux semaines, c'est acceptable parce qu'il a été beaucoup étudié hors Parlement. Là.
Oui.
Dans toute la commission de Véronique Yvon, puis tout ça.
Avec tous les partis.
Avec tous les partis, tous les experts, tous les spécialistes, des consultations publiques. Fait que tu te dis, OK, le travail s'est fait hors Parlement, mais il s'est pas fait à cachette. Le travail s'est fait.
Mais il s'est pas fait sur ce point-là.
Pas du tout, du tout, du tout. C'est pour ça que je pense que c'était très imprudent du ministre Dubé d'introduire ça. Là.
Mais d'ailleurs, il a dit, si mon erreur, c'est d'avoir écouté ce que les gens vivent sur le terrain, voilà. Donc, on peut-être pas mis une grave erreur. Rappeler que ce qu'on veut, pour le projet de loi 38, c'est une cinquantaine d'articles. Et c'est qu'on veut, de façon centrale, permettre aux personnes atteintes, entre autres d'Alzheimer, de pouvoir faire une demande anticipée pour l'aide médicale à mourir. C'est un consensus.
Mais ça, ça a été débattu, oui. Étudié, toute la mécanique avec la personne désignée, l'équipe médicale, ça a tout été...
Faut dire, pour l'opposition, ils n'ont pas dit qu'ils étaient contre ce point-là, c'est
non,
qu'il n'a pas été débattu.
C'est ça.
Et c'est arrivé comme ça, comme un lapin du chapeau.
Mais je pense que le reste du projet va passer, là. Dans ces conditions-là, je pense que le reste du projet va pouvoir passer.
Autre annonce du gouvernement provincial, François Legault, cette fois qui s'engage à donner un accès au réseau cellulaire aux régions du Québec s'il est reporté au pouvoir en octobre prochain. On sait que on a respecté la promesse concernant l'Internet haute vitesse.
En fait, on dit qu'on va être capable de la respecter pour l'échéance électorale au mois de septembre, octobre.
Ouais. Ben, faut dire, on est sauvé parce qu'ils n'ont pas eu à bâtir rien. Là. Tu t'entends avec SpaceX, là. Il a bâti une couverture Internet dans l'espace.
Pour compléter les derniers.
Le Québec n'a pas fait ça. Là. Donc, peut-être, parce qu'on a eu une option un petit peu plus facile, disponible. Ce sera quoi, par contre, pour le réseau cellulaire? Sinon, il faut construire des tours cellulaires. Il faut les faire pour vrai. Là. On peut pas juste les louer à Elon Musk. C'est quand même ce que promet François Legault aujourd'hui, disant que trop de zones d'habitation et de routes sont mal desservies. C'est un frein au développement. C'est dangereux pour les accidents de la route aussi, lorsque ça se fait dans des zones qui sont pas desservies. Alors, disons, on est en train de livrer sur l'Internet, on va livrer pour le signal cellulaire dans toutes les régions lors d'un prochain mandat. On parle d'ailleurs du gouvernement qui a déjà investi le plus de 50 millions dans le dernier budget pour redresser cette situation. Alors, ça fait partie des nouvelles promesses électorales.
Dans le cas de la région de Charlevoix et du Bas-Saint-Laurent en face, là,
ouais.
Ça s'est réglé avec le G7.
Ben oui, c'est vrai.
Quand le G7 était...
Ouais.
C'est vrai qu'il y a eu des G7 dans toutes les régions du Québec. Quand il y a eu le G7 là, au manoir Richelieu, mais là, ils ont dit, non, là, ça prend pour la sécurité, oui. En fait, de tous les pays, de tous les chefs de gouvernement, puis tout ça, ça prend de la couverture cellulaire.
Puis LTE 4 bars.
Oui, monsieur.
Oui, monsieur.
Donc, la couverture cellulaire dans toute la... C'est quand même très montagneux, tu sais, puis dans certains cas, ben les gens de Charlevoix ont le cellulaire par des tours sur la rive sud. Tu sais, des fois, c'est plus facile d'aller de l'autre côté du fleuve, là.
C'est vrai.
Tu vas aller chercher une tour plus loin, et vice-versa. Fait que pour la région, l'est de Chaudière-Appalaches, l'ouest du Bas-Saint-Laurent, puis Charlevoix en face, la couverture cellulaire s'est beaucoup améliorée depuis le G7 en 2018.
Un G7 à Natashquan, ou...
G7 en Abitibi.
En Abitibi, des coins Gaspésie. Alors, à suivre dans un prochain mandat.
Tout savoir en 24 minutes.
Vous vous souvenez probablement de cette histoire de complot pour une tuerie dans une école secondaire à Montréal. Aujourd'hui, deux adolescents qui étaient au centre de ce plan là, qui voulait être une véritable tuerie dans une école. Deux de ces adolescents...
Eux ont fini par dire que c'était une joke.
Oui, eux disent que c'est une joke. Faut dire, par contre, la joke est rendue plate. Elle était loin, méticuleuse. Pas comme, je vais tuer tout le monde. T'écris ça, je dis pas que c'est pas criminel, mais là, c'était un plan très détaillé, au point où, d'ailleurs, la juge aujourd'hui, Taïa Di Pietro, à la Chambre de la jeunesse de la Cour du Québec, a dit que le plan glaçait le sang de penser à ce qui aurait pu arriver. Rappelez que dans cette école secondaire du quartier Saint-Michel, un groupe de conversation privée s'était mis à créer un plan dans le but de mettre le feu à l'école, créer une panique, puis tirer sur les gens qu'ils voulaient tirer, alors qu'on allait faire jouer dans les haut-parleurs de l'école de la musique. C'était écrit, par exemple, ça va être la dernière journée de cours pour certains, préparez-vous pour le party. On avait commandé des livres pour avoir le modèle sur comment fabriquer des engins explosifs artisanaux. Ça va quand même assez loin là, quand tu commandes des livres. C'est au-delà de la blague. D'autres disent avoir contacté des gens pour avoir des pistolets. On faisait la comparaison avec la tuerie de Columbine en 99. On ciblait certains jeunes de façon très, très claire également. Toutefois, ça s'était ébruité, ce plan-là. C'était venu à l'oreille des policiers. Il y avait eu donc arrestation. Et deux d'entre eux avaient plaidé coupable. dont l'instigateur de ce plan-là, qui écope de 15 mois de probation, s'accomplit ses culpes d'un an de probation. C'est une suggestion commune. On s'entend qu'on n'est pas dans d'énormes peines. Ce qu'on veut, c'est la réhabilitation des accusés. Dans le cadre de cette probation-là, les ados qui vont devoir rédiger une lettre d'excuse, entre autres. Certaines des victimes, en fait, qui étaient, citées dans ces messages-là, étaient au palais de justice aujourd'hui, et leurs parents, qui ont été assez secoués par toute cette histoire et à la lecture de ce qui était écrit comme plan voulant tuer leur enfant. Je vous fais entendre, entre autres, la victime et ses parents. Écoutez ça.
Je sais c'est quoi les horreurs que ça peut causer. Moi, j'ai eu la chance d'être encore là en ce moment pour vous parler, mais contrairement aux pauvres personnes tuées au Texas.
Pendant une semaine, on se dit, OK, le pire a été évité, passons à d'autres choses, puis tout d'un coup, bang, ça rattrape, puis ça comme... pas de bon sens que ça nous fait comme sentiment de dire, mais non, il s'est pas rien passé. Il y a quelqu'un qui a essayé de m'enlever mon fils qui était sérieux là-dedans.
Mais quand il y a des signaux qui émanent et quand on a des doutes, il faut les confronter, nos enfants, puis leur dire, les réseaux sociaux, c'est pas de la blague. Les réseaux sociaux, c'est dangereux. Les réseaux sociaux, c'est des mots qui blessent, c'est des intentions.
Bon, et rappelez que ce qui se passe dans l'actualité ces jours-ci avec le Texas, ça a amené un peu le sentiment de ce qui aurait pu arriver si on n'avait pas été capable de mettre le doigt sur ce plan et d'arrêter ces jeunes-là. Alors, c'est la fin dans le cas de deux de ces... enfin, des procédures judiciaires pour du moins deux d'entre eux. Parlant de fin de procédure judiciaire, dans le cas de Tony Accurso, il a perdu son appel. Presque dernière option pour Tony Accurso dans le but d'éviter la prison. Lui qui avait été condamné à 4 ans de prison le 25 juin 2018, on se souvient, dans tout ce dossier de corruption à Laval impliquant l'ex-maire Gilles Vaillancourt.
C'était déjà une reprise de procès.
Ben oui, effectivement. Il faut rappeler que le procès avait avorté. C'était d'ailleurs au centre des plaintes de Tony Accurso. On se rappelle, on dénonçait un système de corruption endémique, le 2% qui allait payer au maire et ses associés. Jugement de 76 pages aujourd'hui, où les trois juges rejettent les appels des peines et des verdicts envers Tony Accurso, de sorte que prendrait le chemin de la prison le 1er juin prochain. Finalement, il faut dire qu'il a été arrêté en 2013, ça va faire presque 10 ans, et qu'il se retrouverait à l'intérieur d'une cellule.
Un ultime appel.
Oui, la Cour suprême, est-ce qu'il va aller là? Faudra voir. Et surtout, est-ce que s'il y va, la Cour suprême serait prête à entendre un dossier
de la
sorte?
Il doit demander à la Cour suprême, tu dois demander une permission d'aller en appel. Là, il faut que ton avocat prouve que ta cause est d'un intérêt national, là, mérite d'être entendue sur le plan du droit au Canada. Là, c'est majeur que cette question-là soit tranchée par la Cour suprême.
Ouais,
est-ce qu'il y a
doute
ça
là-dessus?
Est-ce
là,
qu'il y a ça dans ce cas-ci? Ouais, c'est ça.
J'en doute. Alors quand même, je me disais, pour quelqu'un qui... tu sais, qui a vécu de luxe et tout ça,
non,
de grandes dépenses.
Le maire Vaillancourt est passé par là.
Oui,
parce que lui, c'était plus rapide, plus expéditif.
Mais le maire Vaillancourt n'avait pas un yacht. Il n'avait peut-être pas le train.
Il
vivait bien.
Pas juste le train financier. Il y avait une vie... c'était le king, là.
Ouais, c'est
il
vrai.
Avait une vie sociale. Il rentrait partout, dans toutes les salles où il rentrait. Il était le personnage le plus important. Monsieur le maire, votre chaise est ici, votre plat, tu sais.
Pour avoir vu des sentences dans les palais de justice, quand elle l'accusait avec sa petite valise, là, sa poche
c'est
de vêtements.
C'est plus ordinaire.
Et Tony Accurso va être la fin du party, disons, à partir du 1er juin. Les Québécois sont frappés durement par l'inflation selon un sondage léger, Cube Radio, entre autres, publié aujourd'hui sur le fait que, 73% des Québécois disent devoir couper dans les dépenses pour faire face à l'inflation actuelle et la hausse des taux d'intérêt. Ce qui est intéressant, c'est que, ça touche tout le monde, tous les groupes d'âge, hommes, femmes, Montréal, hors Montréal, à peu près dans les mêmes proportions. Une petite différence, hommes-femmes, 70%.
Voilà un sujet qui n'est pas là pour diviser les Québécois.
On est tous à peu près entre 70 et 77%. Donc, les hommes, 70, femmes, 77, c'est la plus grosse différence.
Donc, les femmes, en fait, plus de choix par rapport, plus de sacrifices par rapport à l'inflation.
Ils doivent couper un peu plus de dépenses selon le sondage. Le groupe, là, le plus ciblé, c'est femmes 35-54. Qui a dû, dans le plus haut taux, réduire ses dépenses. Mais en gros, là, c'est pas mal autour de 70-75%. Petite différence dans les partis politiques.
Ah oui?
Ben oui, c'est les conservateurs du Québec, les fans d'Éric Duhaime, qui, semble-t-il, ont dû se serrer le plus la ceinture à 84%.
Ils sont plus frappés par l'inflation que les autres.
Ben, peut-être qu'ils... que ça les fâche plus, ou en tout cas 84%. PQ suit 77%. Et ensuite, CAQ, PLQ, QS, c'est tout pareil, 72-73%. Fait partie des rares différences. Sinon, dans ce qui est de l'interprétation et de ce qui doit être fait par les Québécois pour faire face à l'inflation, ben à 51%, ce qui doit être coupé, c'est restaurants, bars, spectacles, activités culturelles, les sorties. Loin devant la réduction des déplacements en voiture, couper dans l'épicerie, modifier les vacances de voyage. Alors, c'est vraiment...
Vacances-voyage, ça arrive loin, ça?
Ben, vacances-voyage, c'est 11%.
Puis les sorties...
51.
En d'autres termes, les gens sont beaucoup plus prêts à couper, petite sortie au restaurant le soir, que couper leurs vraies
couper
vacances.
Les vacances. En même temps, si on parle à des restaurateurs, ça semble aller plutôt bien, les spectacles
aussi.
Parce
que c'est... tu veux sortir le samedi soir, le vendredi soir, là, casse-toi.
Pour moyen d'avoir une réservation.
Tu te casses la tête, trouver une table. Là.
Alors, peut-être qu'aussi dans la perception, on a l'impression qu'on y va moins, mais que c'est peut-être ailleurs finalement qu'on coupe. Parce que dans les questions concernant le prix des aliments, qu'est-ce qu'on coupe à l'épicerie? En fait, ce que les gens font à presque 60%, c'est l'achat de produits en promotion, ce qui n'était pas fait avant. Ensuite, l'achat de marque maison, réduction d'achat de viande ou de poisson. Pour ce qui est du prix de l'essence, c'est la diminution des déplacements en voiture qui est numéro un devant le fait de couper ailleurs pour pouvoir continuer de dépenser autant avec la voiture. Et à la question, qui est responsable de l'inflation? Les Québécois, 52% disent que c'est un ensemble de facteurs. Alors, le Québécois, moi, est très responsable. Comprend que c'est multifactoriel.
Ceux qui se risquent à nommer un seul facteur.
Ensuite,
là.
Résultat de la pandémie. Les entreprises qui profitent de la situation à 10%.
Ah, okay.
Guerre en Ukraine, équivalent avec la guerre en Ukraine. Et la faute au gouvernement. Le fédéral en premier 8%, provincial 3%. Et la faute à la Banque du Canada 1%. Alors, c'est ce qu'on retrouve dans ce sondage publié donc aujourd'hui.
Fait que M. Poilievre qui veut congédier le gouverneur de la Banque du Canada.
Ouais, c'est pas, ça va pas chercher grand monde.
1% des gens qui pensent que c'est de sa faute.
Non, aussi, dont l'absence de Bitcoin dans le portefeuille. Là,
ça paraît pas.
Non, c'est pas là-dedans. Autre casse-tête, puis là, il y en a qui vont toucher à leur budget vacances. Mais ceux qui avaient déjà réservé leurs belles vacances à l'extérieur du pays pour l'été, vous avez un nouveau casse-tête, c'est le renouvellement du passeport. On en parle depuis quelques semaines maintenant, mais ça ne s'améliore pas chez Service Canada.
Mais excuse-moi, là, je veux pas être méchant pour les gens qui vivent ce bordel-là, mais mettons que tu as acheté tes vacances récemment, là, puis que tu t'es pas préoccupé de tes dates de passeport. Soit tu écoutes pas les nouvelles, ou soit tu te dis c'est juste du placotage aux nouvelles, ils disent n'importe quoi, c'est pas la vérité.
Fake news.
C'est pas la vérité.
Ouais.
Parce que je veux dire, écoute, sur toutes les chaînes, il y a eu des reportages, des longs, des courts, des nouvelles,
ouais,
des explications.
Ouais, mais j'avoue que je suis un peu du genre là, tu sais, à pas regarder ma date de renouvellement là. Puis là tu regardes,
ah, ouais,
là tu
ça.
Dis ah, OK, ben j'étais correct, puis là ah merde. Il me reste un mois, puis c'est dans 3 mois mon voyage. Quand même, je sais que toi, t'es à ton affaire, Mario,
non,
mais il y a des gens comme moi un peu derrière.
Moi, à l'époque, là, j'avais payé. On partait toute la famille en vacances, genre le samedi, quelque chose de même, là. Et puis, je me suis rendu compte, le mercredi soir, en ramassant les affaires, en pactant tout ça, que mon passeport était échu. Ah. Puis, je l'ai eu, il y avait le service 24
ouais,
heures,
ouais.
J'ai payé l'extra. Mais je veux dire, je pense qu'on est allé chercher mon passeport sur le chemin de l'aéroport, là.
C'est minuit moins une.
Ouais.
Et là, on dit qu'on a engagé donc davantage d'employés pour essayer de faire face à ces files monstres. Mais c'est difficile. J'entendais des gens dans des vox pop là aujourd'hui qui disaient ben on part en début juillet. Le rendez-vous le plus tôt, c'est à la mi-juillet.
Ouais, parce qu'il faut prendre un rendez-vous.
Ouais.
Pour avoir accès
mais c'est
au bureau des passeports.
Pas possible, ouais. J'ai allé tantôt, presque pas possible de prendre rendez-vous. Alors qu'il y a des gens qui font la file.
Je veux dire que t'as toutes les, comme sur Clic Santé pour les vaccins, tout est pris, toutes les heures sont prises.
Ouais, ben moi à Montréal, là, j'étais pas capable tantôt de trouver un rendez-vous. Est-ce qu'à l'extérieur c'est plus facile? Sinon, faut faire la file ou avoir un billet là, pour très bientôt. Tu disais que c'est passé de 48 à 24 heures. Même il faut vraiment
c'est-à-dire
une dernière
que moi,
minute.
Le témoignage que j'ai eu là, c'est que on te dit si t'as un billet sur le site internet, si t'as un billet dans les 48 heures, on va te dépanner, on va te faire ton passeport. Mais quand tu te présentes à Guy Favreau, en tout cas quand tu te présentais il y a 2-3 semaines, il y a une affiche sur place qui dit il faut avoir son billet d'avion dans les 24 heures et non plus 48 heures. Donc il y a plein de gens, parce que tu sais, si t'as ton billet d'avion dans les 48 heures, t'es déjà nerveux, donc des gens qui partent dans 2 jours. Là, ils arrivent à Guy Favreau, sont partis de Mirabel, Saint-Eustache, Longueuil,
ouais, ils ont fait 2 heures de trafic, ils essaient de se stationner.
Là, ils sont stationnés au centre-ville, ils arrivent à Guy Favreau, puis ils se font dire, ah non, finalement... Mais ils
un
l'ont
lendemain.
Le 48 heures, ils l'ont vu sur le site internet du ministère, mais sur place, ils disent, non, c'est le dernier 24 heures, vous reviendrez demain.
Peut-être le fun, ça, le niveau plein, de stress quand même.
Plein de beau monde. Oui, d'autant plus que le lendemain, là, t'es rendu à la veille de ton départ. Là, tu commences à être stressé pas à peu près.
Et là, dans le trafic, t'es encore plus stressé. Et je termine avec le petit Rorqual qui a été retrouvé mort, Mario, à contre-cœur. Probablement, on n'a pas la confirmation, probablement un des deux Rorquals de Montréal qui se serait donc échoué près de contre-cœur en Montérégie. Lui qui s'est retrouvé à Montréal là, au début du mois de mai, mais qui était porté disparu depuis le 14 mai dernier. Alors, on souhaitait qu'il se retrouve à la maison, mais ça ne semble pas le cas.
Résumé l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.